Voici une question dont la réponse nous mènera vers un sujet qui est réellement d'actualité. Est-ce que l'homme est un dieu? Nous verrons ce que les Saintes Écritures disent à ce sujet aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. On a vraiment de très bonnes questions à poser à l'Épître aux Hébreux aujourd'hui. Alors allons-y sans plus tarder. Est-ce que l'homme est un dieu? Où est-ce qu'il se situe par rapport aux anges? Est-il capable de gouverner la terre? Pouvons-nous voir Jésus aujourd'hui? Pourquoi Jésus a-t-il reçu gloire et honneur dans le ciel? Qu'est-ce qu'il a accompli en s'humiliant? Quel est le but de Dieu? En quoi consiste l'œuvre de salut que Jésus a accomplie sur cette terre? Restez avec nous. Le pasteur Jean Joly est sur le point de nous enseigner ce que la Bible dit en réponse à chacune de nos questions. Mais premièrement, remercions Dieu pour sa parole merveilleuse. Prions. Oui, merci, mon Dieu, pour ta parole. Ta parole qui nous transforme, qui touche nos cœurs. Ta parole qui est la vérité. Enseigne-nous ta vérité aujourd'hui par la bouche de ton serviteur. Inspire-le par ton Esprit Saint, touche nos cœurs profondément. Aide-nous à retenir ce que tu vas nous enseigner. Aide-nous à le pratiquer chaque jour de notre vie pour ta gloire. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que l'Épître aux Hébreux affirme clairement que le Seigneur Jésus est Dieu fait chair, qu'il est éternel et immuable. De plus, nous avons vu que le Seigneur Jésus est supérieur aux anges et qu'il est exalté. L'Épître aux Hébreux nous enseigne que le Seigneur Jésus révèle Dieu et qu'il nous représente auprès du Père Céleste. Il a versé son sang pour le pardon de nos péchés. Et il intercède pour nous auprès du Père. Il nous défend, entre autres, contre les accusations graves que Satan porte contre nous. Nous avons expliqué qu'un chrétien peut vivre de deux façons. Il peut connaître la sécheresse spirituelle en vivant dans le désert, ou il peut reconnaître le repos de Dieu en traversant le Jourdain spirituel et en venant en présence de Dieu. Traverser le Jourdain spirituel, c'est recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur. C'est le Seigneur Jésus qui nous ramène de la mort spirituelle à une nouvelle vie en lui. Nous avons indiqué que l'Épître aux Hébreux nous donne 6 avertissements. Ces avertissements destinés aux Hébreux du temps de l'apôtre Paul s'appliquent encore très bien à nous aujourd'hui. Nous avons examiné le premier avertissement, celui de laisser le monde nous emporter loin de Dieu en négligeant le salut qu'il nous propose. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous soulignerons l'humanité de Jésus-Christ. Il est aussi important de la considérer que de considérer sa divinité. Le Seigneur Jésus a fait connaître Dieu sur terre et il représente l'humanité au ciel. Chers amis, débutons la lecture de cette émission en lisant Hébreux chapitre 2, verset 5. En effet, ce n'est pas des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Premièrement, assurons-nous de bien comprendre de quel monde l'auteur de l'Épître parle. De nombreuses personnes pensent que le monde en question est le monde spirituel, le ciel. Le mot grec traduit « monde » est « wakoumene », et ce mot signifie « la terre habitée » ou « les habitants de la terre », »,« les hommes ». Ce verset nous parle donc des habitants de la terre. Le mot « wakoumene » est utilisé dans le verset suivant. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Citation de l'Évangile selon Matthieu chapitre 24, verset 14. Nous le trouvons aussi dans Romains chapitre 10, verset 18. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Dans ces versets, le monde ne signifie pas le ciel ou l'éternité. Il ne réfère pas au régime de la grâce sous lequel nous vivons présentement. Il parle du royaume messianique qui sera établi sur la terre. Les Hébreux connaissaient l'Ancien Testament et ils savaient que celui-ci enseignait qu'il viendrait un royaume sur lequel régnerait un descendant de David. L'auteur revient maintenant au psaume 8 et il nous en donne une interprétation. Ce psaume traite de la création. Verset 6. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Qu'est-ce que l'homme? Les versets 6 à 8 sont une citation des versets 5 à 7 du psaume 8. Arrêtons-nous un moment pour réfléchir à ce qu'est l'homme. Qu'est-ce que l'homme? C'est une bonne question. Des personnes adeptes des doctrines du Nouvel Âge pensent qu'elles sont des dieux. Mais un auteur anonyme a vu un peu plus juste lorsqu'il a dit « L'homme n'est qu'un petit bouton sur l'épiderme d'une très petite planète. » Ceci remet l'homme à sa place, mais c'est plus ou moins exact. Quelqu'un a dit que si l'on considère une des particules qui forment le noyau d'un atome et le plus grand corps céleste possible, en fait de grosseur, nous sommes probablement à mi-chemin entre les deux. Autrement dit, il y a beaucoup d'objets infiniment plus petits que l'homme, et il y a beaucoup d'objets énormément plus grands que lui. Qu'importe où l'homme se situe, le plus important, c'est que le Seigneur de gloire, la deuxième personne de la Trinité, est devenu Jésus, un homme. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Eh bien, Jésus est devenu un homme. Il a quitté sa gloire céleste. Il est venu sur cette terre, mais il n'est pas devenu un ange. C'est ce que va nous dire l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Qu'est-ce que l'homme? De lui-même, l'homme n'est rien. Physiquement, si vous décomposez son corps en ses composantes chimiques les plus simples, et si vous essayiez de vendre les produits obtenus, vous n'en tireriez même pas 10 $. Intellectuellement, l'homme pense avoir une grande valeur, mais en fait, il sait peu de choses. Qu'est-ce que l'homme sait au sujet de ce vaste univers dans lequel il vit? Des milliards de dollars ont été dépensés pour comprendre ce qu'est la force de gravité. Les scientifiques savent qu'elle existe, et ils sont capables de calculer sa valeur avec des équations. Mais ils ne comprennent rien de sa véritable nature. Les astronomes et les astrophysiciens sondent les confins de l'univers, mais ils n'ont que des observations indirectes pour construire leurs théories au sujet de l'origine de l'univers. De plus, ils modifient constamment ces théories, car des aspects de celles-ci sont régulièrement contredits par de nouvelles observations. Nous gaspillons une fortune pour comprendre l'origine de l'univers, alors que Dieu nous a déjà dit tout ce dont nous avons vraiment besoin de savoir dans le livre de la Genèse. Si vous observez l'homme de près, vous découvrez qu'il est un pécheur perdu. Il est dans un état de perdition terrible. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Et il nous a rendu visite parce qu'il désirait communiquer avec nous et il voulait nous sauver, car il a vu notre état lamentable de perdition. Verset 7. Tu l'as abaissé pour un peu de temps, au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Où se situe l'homme par rapport aux anges? Au moment de la création, Dieu a fait l'homme de peu inférieur aux anges. Le psaume 8 est très clair sur ce point. L'homme a été créé au-dessous des anges. Celui qui était supérieur aux anges a bien voulu s'abaisser au-dessous d'eux. Il n'est pas devenu un ange, mais plutôt un homme. Plusieurs théologiens croient que celui qui est appelé l'ange de l'Éternel, dans l'Ancien Testament, est en fait Jésus-Christ. Il y a amplement de raisons pour croire cela. Lorsque Jacob a lutté toute la nuit contre un homme, il a lutté contre l'ange de l'Éternel. Il a dit avoir vu Dieu face à face. C'est ce que nous lisons dans le livre de la Genèse, chapitre 32. Le Nouveau Testament nous dit que lorsque Christ est venu sur terre, il s'est abaissé au-dessous des anges. Pourquoi est-ce que le Seigneur a fait cela? Il l'a fait afin de nous révéler Dieu. De plus, il représente la race humaine auprès de Dieu. Il a fait connaître Dieu sur terre et il intercède pour les hommes au ciel. Après être descendu sur terre pour nous faire voir la divinité, il est remonté au ciel et depuis, il y amène des hommes. Ceux qui iront au ciel iront parce qu'ils sont dans le Seigneur Jésus-Christ. Ils habitent en lui et lui en eux. Voici le but pour lequel Dieu a créé l'homme. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Citation du psaume 8, verset 7. L'homme fera quelque chose que les anges n'ont jamais pu faire. Les anges ne gouvernent pas l'univers. Ils sont les messagers de Dieu. Un ange s'est rebellé contre Dieu. Il a tenté d'établir son propre royaume. Il a tenté de devenir le chef suprême de l'univers. Son nom? Lucifer, l'étoile du matin. Aujourd'hui, il porte le nom de Satan ou le diable. Il était un ange de lumière et il s'est rebellé. Dans son cœur, il a dit, « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. » Le prophète Ésaïe, chapitre 14, les versets 13 et 14. Dieu n'a jamais projeté que Lucifer règne, mais il a créé l'homme afin qu'il règne sur la terre en se soumettant à son Créateur. L'homme est-il capable de gouverner la terre? Aujourd'hui, l'homme montre qu'il est totalement incapable de régner sans Dieu. L'homme pécheur n'est plus compétent pour gérer la terre. Vous avez des doutes? Jetez un coup d'œil sur l'actualité. Nous avons provoqué le réchauffement climatique et nous nous battons entre nous plutôt que de faire un effort collectif pour régler le problème. L'homme est incapable de régner, mais comme Satan, il pense pouvoir le faire. Il essaie de régner et de gouverner sans l'aide de Dieu. Dans le passé, Dieu a abondamment béni des hommes qui comptaient sur Dieu pour les rendre capables d'accomplir leur mission et leurs tâches. Par contre, l'homme laissé à lui-même est totalement dépassé par les événements et les problèmes. Il ne peut gouverner cette petite planète. Cependant, grâce à son œuvre rédemptrice, Dieu va ramener l'homme dans un état qui le permettra de régner sur la terre. Dans le psaume 8, nous avons lu, « Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. » Le psaume 8, versets 6 et 7. L'homme a perdu la domination de la terre que Dieu lui avait accordée dans le jardin d'Éden. Il a perdu en désobéissant à Dieu, et le Seigneur Jésus a récupéré cette domination par son obéissance. Verset 8. Tu as mis toutes choses sous ses pieds, en effet, en lui soumettant toutes choses. Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Dieu a tout mis sous les pieds du Seigneur Jésus et non des hommes. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. Le Seigneur Jésus contrôle toujours la terre, bien qu'il n'y règne pas ouvertement. Lorsque le Seigneur Jésus reviendra régner personnellement sur la terre, les prisons et les hôpitaux seront fermés. Il n'y aura ni crime, ni pauvreté. Lorsqu'il règnera, la terre sera comme un paradis pendant 1000 ans. En citant le psaume 8, l'auteur établit clairement que celui-ci parle du Seigneur Jésus. Maintenant, nous arrivons au cœur du chapitre en lisant le verset 9. « Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. » Mes amis, voyez-vous Jésus aujourd'hui? Jésus, nous le voyons. C'est à cause de ce qu'il a fait que nous voyons Jésus. Nous voyons Jésus. Le mot « voir », qui est « blépo » en grec, signifie « savoir par expérience », comprendre, voir avec les yeux de l'esprit. Nous ne parlons pas d'un petit coup d'œil rapide. Nous voyons qu'en Jésus-Christ, il y a quelque chose que notre intelligence ne peut pas comprendre. Nous le regardons par la foi et la confiance, avec étonnement et fascination dans un esprit d'adoration. Tout ceci résumé dans la petite phrase « Jésus, nous le voyons ». Mes amis, voyez-vous Jésus aujourd'hui? Est-ce que l'Esprit de Dieu a ôté le voile qui couvre votre intelligence spirituelle afin que vous puissiez le voir? Jésus, nous le voyons. Notez que Jésus est le nom humain du Seigneur. Lorsqu'il a été conçu, l'ange a déclaré « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus ». Matthieu chapitre 1 verset 21. Qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges? Pendant 33 ans, alors qu'il était sur la terre, le Seigneur Jésus-Christ a été abaissé au-dessous des anges. À cause de la mort qu'il a soufferte, seul le Christ pouvait racheter les hommes, et il pouvait le faire seulement en mourant sur la croix. Il n'y avait pas d'autre moyen. Pourquoi le Seigneur Jésus a-t-il reçu gloire et honneur dans le ciel? Couronné de gloire et d'honneur. Il n'a pas été couronné de gloire et d'honneur par sa mort, mais parce qu'il est venu sur la terre et qu'il est mort pour nous, afin que nous puissions obtenir le pardon de nos péchés. Je souligne le fait qu'il y a un homme dans la gloire, et cet homme n'était pas là il y a 2500 ans de cela. À ce moment-là, il était la deuxième personne de la Trinité. Nous pouvons l'appeler Yahweh, parce que Jésus est Yahweh. Il était et il est pleinement Dieu. De plus, aujourd'hui, il est pleinement homme. Il a pris une nature humaine. Et parce qu'il a fait cela, il a reçu gloire et honneur dans le ciel, une gloire qu'il n'avait pas auparavant. Il a souffert la mort pour tous. Non seulement est-ce que le Seigneur Jésus a connu les souffrances de la mort, mais il a fait l'expérience de celle-ci dans toute sa profondeur. Il a bu la coupe de la mort. Cette coupe amère a été portée à ses lèvres, et il a tout bu jusqu'à la dernière goutte. Il a fait tout cela pour nous, par la grâce de Dieu. Il a fait tout cela par la grâce de Dieu, afin que Dieu puisse exercer sa grâce envers nous et nous sauver. Poursuivons la lecture de notre texte, d'Hébreux chapitre 2, verset 10. Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, est élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Qu'a accompli l'humiliation du Seigneur Jésus? Jésus n'était pas un homme dans lequel Dieu accomplit quelque chose. L'humanité de Jésus n'en a pas fait un génie religieux. Elle n'en a pas fait un martyr pour une bonne cause. Il n'est pas venu montrer ce qu'est une vie exemplaire. L'humiliation du Seigneur Jésus a accompli deux choses. Premièrement, elle a apporté gloire et honneur à la personne de Christ. Deuxièmement, elle a enlevé les obstacles qui empêchaient Dieu de manifester sa grâce aux pécheurs repentants. Le Seigneur Jésus a apporté sa nature humaine au ciel et il n'y a pas seulement un homme dans la gloire céleste, mais cet homme a reçu une gloire qu'il n'avait pas avant son incarnation. Quel est le but de Dieu? Puisque le texte précise, il convenait. Ceci s'harmonisait avec sa personne et son but de conduire beaucoup de fils à la gloire. Celui, parlant de Jésus-Christ, pour qui et par qui sont toutes choses? Le Seigneur Jésus a créé toutes choses et tout lui appartient. Vous demandez-vous pourquoi l'univers existe? C'est parce que le Seigneur Jésus l'a voulu ainsi. L'origine de l'univers a débuté dans les pensées du Seigneur Jésus-Christ, qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Voilà quel est le but de Dieu. Dieu a aussi un but pour établir son roi sur la colline de Sion. ou à Jérusalem. Dieu terminera ce projet, mais en attendant, il appelle un peuple qui porte son nom. Il conduit de nombreux fils à la gloire. Alors que nous évangélisons, nous rencontrons souvent des personnes qui sont arrivées au bout du rouleau à cause de la drogue ou des conséquences d'un autre péché. Le Seigneur Jésus sauve ces personnes et transforme leur vie. Cela se produit partout dans le monde. Dieu appelle toujours des gens au salut afin de se former un peuple qui porte son nom et conduire des fils et des filles à la gloire. En quoi consiste l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ? Le texte nous dit « Élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut ». Le mot grec « argégos », qui est traduit « prince » dans ce verset, est traduit par « qui suscite » au verset 2 du chapitre 12 de cet épître et par « prince » dans le livre des Actes, chapitre 3, verset 15. Il signifie « celui qui est à l'origine de », c'est-à-dire l'auteur. Un prince initie des projets et les exécute. Autrement dit, le Seigneur Jésus est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Il débute des œuvres et il les complète. Il est le prince, la personne responsable. Il a initié l'œuvre salvatrice par laquelle il sauve des pécheurs et il exécute parfaitement son œuvre. Comment a-t-il fait cela? Il l'a fait en prenant une nature humaine et en habitant parmi nous. Qu'a-t-il fait sur la terre? Il a goûté à la mort pour tous les pécheurs qui se repentiraient. Il est venu se racheter un peuple et lui procurer un moyen de salut. Il a révélé Dieu à l'humanité et il représente les hommes au ciel. Nous en reparlerons lorsque nous discuterons du sacerdoce du Seigneur Jésus-Christ, notre grand prêtre céleste. Le texte rajoute « élevé à la perfection par les souffrances ». Par élevé à la perfection, nous entendons qu'il a achevé ou complété son œuvre. C'est le sens du terme grec derrière le mot traduit « perfection ». Il a été élevé à la perfection par ses souffrances. Bien que le Seigneur Jésus soit le Fils de Dieu et qu'il soit pleinement Dieu, sa vie parfaite ne nous sauve pas. Sa naissance d'une vierge ne nous sauve pas. Ni son enseignement, ni ses miracles, ni son exemple. C'est par sa mort expiatoire sur la croix qu'il nous sauve. C'est son sacrifice sur la croix qui a complété ou rendu son œuvre salvatrice parfaite. Lorsque le Fils a vu notre état lamentable de perdition, il ne nous a pas simplement lancé une Bible du ciel en disant « Voici un livre qui peut vous aider, j'espère que vous vous en tirerez. » Non, il est venu sur terre et il a accepté de mourir à la croix pour nous. C'est pourquoi nous pouvons lui faire confiance pour notre salut. Il a quitté trône, dignité, quitté son ciel pour venir ici-bas sur la terre afin de souffrir pour nos péchés à la croix. Voilà le salut qu'il peut offrir à quiconque veut bien comprendre et saisir. Mes amis, le Seigneur Jésus n'est pas venu tout simplement rendre notre salut possible, mais pour l'accomplir parfaitement. Prochaine émission, l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, versets 11 à 17. Je vous invite à lire ces versets pour la prochaine émission.
Merci, Régent. On a vu une fois de plus aujourd'hui à quel point Dieu nous aime et comment il a manifesté cet amour par son Fils Jésus qui a donné sa vie pour nous. Pour ma part, je ne me lasse jamais d'entendre parler de mon Sauveur merveilleux qui s'est humilié dans un corps comme le nôtre, qui a souffert de la part de ses propres créatures et qui s'est laissé crucifier sur une croix afin de payer la dette que je devais à Dieu, afin de la payer en entier. D'ailleurs, avant de mourir de cette mort atroce sur la croix, il a dit « Tout est accompli ». Mon ami Jésus a fait ça pour moi. Et il a fait ça pour toi aussi, puisqu'on est tous des pécheurs. La parole de Dieu nous dit que tous ont péché. Régent a mentionné une chose qui me concerne particulièrement à travers le bon enseignement qu'on a reçu aujourd'hui. Il a dit que lorsqu'on évangélise, on rencontre souvent des personnes qui sont arrivées au bout du rouleau à cause de la drogue ou des conséquences d'un autre péché. Et il a ajouté que le Seigneur Jésus sauve ces personnes et transforme leur vie. Eh bien, mon ami, toi qui es aux prises avec la drogue, tu as peut-être essayé toutes sortes de cures, de thérapies, pour te retrouver une fois de plus dans un état de désespoir. Eh bien, j'aimerais te dire qu'il y a de l'espoir pour toi. D'ailleurs, je pourrais te dire qu'il n'y a qu'un seul espoir réel pour toi, et cet espoir, c'est Jésus. Quant à moi, la raison pour laquelle la drogue était devenue un besoin autrefois, c'était à cause du grand vide au-devant de moi. J'étais malheureuse en amour, frustrée dans ma carrière, je me sentais seule. Et quand j'étais sous l'effet de la drogue, j'avais l'impression d'être au-dessus de mes affaires. Je croyais que j'allais conquérir le monde par mon talent et que je trouverais le prince charmant qui me comblerait jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais quand je me réveillais le lendemain matin, c'était à recommencer. Je disais « aujourd'hui, je ne consommerai pas ». Et quelques heures plus tard, je me tournais de nouveau vers ce plaisir, ce bonheur artificiel qui me plongeait de plus en plus dans le désespoir. Et enfin, j'ai connu l'amour de Dieu. J'ai appris qu'il avait tant aimé le monde qu'il avait donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. J'ai réalisé que l'amour parfait que j'avais tant cherché toute ma vie, c'était Jésus seul qui pouvait me le donner. Et j'ai réalisé que la raison pour laquelle je me sentais si seule, c'était que j'avais besoin de retrouver le chemin qui mène à Dieu, qui est l'amour même. Et j'ai appris que ce chemin, c'était Jésus. D'ailleurs, il l'a dit lui-même, quand il est venu sur la terre, il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et j'ai finalement avoué que c'était le péché qui me séparait de Dieu. Car la Bible nous le dit, tous ont péché. Mon ami, je me suis repenti. J'ai décidé de cesser d'être rebelle envers Dieu en marchant à ma manière. J'ai décidé de marcher à sa manière en m'éloignant du péché. Et finalement, j'ai accepté Jésus comme sauveur et Seigneur, comme maître de ma vie. J'ai dit « Seigneur, sauve-moi » et il l'a fait. Et je suis née de nouveau. Et à partir de ce jour, la nouvelle Caro ne voulait plus consommer de drogue ou faire quoi que ce soit qui offenserait son sauveur merveilleux. Mes amis, je suis sauvée. J'ai la vie éternelle. Et ça fait autour de 30 ans que j'ai ce salut, cette assurance que je vais passer l'éternité dans la présence de Dieu. Alors c'est à ton tour, mon ami, de faire la même chose, de recevoir Jésus comme ton sauveur, comme ton Seigneur. Change de direction à l'égard du péché, tourne tes regards vers Jésus et demande à Jésus de te sauver.
Cher ami, tu viens d'entendre ce message. Il y a peut-être des choses plus ou moins claires à ton esprit. Nous sommes prêts à prendre du temps avec toi et de pouvoir les expliquer.
Quand j'entends un message pour la première fois, c'est pas toujours clair pour moi. J'ai besoin d'être éclairé de nouveau. Et c'est comme ça que... toi, tu peux recevoir cet enseignement. Appelle-nous, il y a quelqu'un qui va te le réexpliquer, puis tu vas le comprendre, aussi simplement que ça.
Nous avons des gens disponibles en tout temps.
Ils vont parler avec toi, ils vont t'expliquer les Saintes Écritures, ils vont répondre à toutes tes questions.
Et tu pourras parler librement. On est là pour t'écouter.
Tu peux être sûr, on va écouter ce que tu as à dire. Et si tu es souffrant, mais c'est le temps de le partager avec nous. Parce que la parole de Dieu a de belles consolations pour toi.
Parle-leur à cœur ouvert. Dis-leur le fond de ta pensée.
Oui. Je dois connaître. Et tu vas connaître en même temps ton grand Dieu, ton Dieu merveilleux. Appelle.
Pour nous rejoindre, au téléphone.
1-877-L'Espoir. 1-877-537-7647. Ou à notre adresse courriel
www.radioespoir.ca ou à l'adresse postale
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Chers amis, au revoir.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.